Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Cosmopolis Film et les films Marbeuf présentent Danse Macabre.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale science-fiction, fantastique et horreur. On est comme ça, on n'a peur de rien, Culture Prohibée. On va voir si on a peur de rien. On va faire un petit focus sur les sorties Artus Film, là, les dernières, de ces dernières semaines, derniers mois, avec Cœur de Pierre de Paul Verhoeven. Non, c'est pas le même Paul Verhoeven, hein, mais c'est un homonyme. Un film de 1950, Danse Macabre d'Antonio Margheriti, un film de 1963. Trois noisettes pour Cendrillon, un film de 1973 de Vaclav Vorlisek. Et puis deux films de science-fiction communiste, hein, voilà. Hello Mea de Hermann Zosch, un film de 1972. Et Dans la poussière des étoiles de Gottfried Kolditz, un film de 1976. Alors, je dis communiste puisque c'était des films... produit de l'autre côté du mur de Berlin. On parlera aussi de « I Spit on Your Grave » de Merzarki qui ressort dans une énorme édition chez ESC. Là aussi, énorme édition, mais c'est chez Carlotta Film d'un film qui s'appelle « Les guerriers de l'Apocalypse » de Kosei Saito, film de 79. Et puis après, on va parler d'un film de 1984 qui s'appelle comment ? 1984. Un film de Michael Radford qui sort chez Rimini Édition. Et on terminera par un film plus récent, une des belles découvertes là, hein, Monolith, film de 2022 de Matt Vesely qui sort là chez Blackout. Alors l'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Jean Lesclos et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer de films qui font peur et pas que, hein, je suis accompagné aujourd'hui de deux acolytes qui peuvent faire peur, attention. Hein. Donc il y a Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
D'ailleurs, Damien, j'ai appris que tu avais été abandonné par ton compère du podcast de la Chimera Tech. Louis, si tu nous écoutes, reviens de Nantes. Jacques Demy l'a dit. Dans ce studio, alors une autre bête hirsute. Alors lui, il me regarde de son regard effrayant. Et c'est terrible. Avec les yeux exorbités, là, c'est le fameux loup-garou Picard, évidemment, Thomas Roland. Chaque nuit de pleine lune, le Lascar nous rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé, bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
À tout seigneur, tout honneur, eh ben je vais démarrer cette émission, j'ai décidé. Non, en fait j'ai décidé plutôt de prendre les films dans l'ordre chronologique tout simplement. Et le plus ancien là, des films de la salve d'Artus Film qui sort, c'est un film de 1950 signé un certain Paul Verhoeven, qui est un homonyme évidemment qui n'est pas le Paul Verhoeven que vous connaissez toutes et tous, le réalisateur génial de Robocop. Non, là, et de Basic Instinct, entre autres, et de Benedetta, et de plein d'autres, et de Black Book, et de... Bon, j'arrête. Là, je vais vous parler de ce film d'un certain Paul Verhoeven, alors, qui est un film... C'est un film de la DEFA. La DEFA, c'était, une boîte de production d'obédience à la base soviétique, hein, qui répercutait ces productions dans les pays satellites de l'URSS et donc en l'occurrence aussi dans l'Allemagne dans l'Allemagne communiste. Oui, parce que l'Allemagne a été communiste hein, jusqu'en 1989. Je dis ça pour les plus jeunes, avant que le mur de Berlin ne s'écroule une toute petite partie de l'Allemagne, mais c'était le cas. Et bon, qu'est-ce que c'est que ce film ? Ce film, c'est un conte de fées, c'est un conte de fées moraliste. Hein. C'est un film qui était voulu par la DEFA comme un blockbuster, parce qu'il faut quand même savoir que c'est un film qui affiche très clairement le fait d'être en Agfa Color. Alors, qu'est-ce que c'est que le Agfa Color ? C'est un procédé donc imaginé par les soviétiques pour concurrencer le Technicolor. Et ça donne vraiment des couleurs très particulières, ça donne des couleurs un peu pastel. Par exemple, c'est le procédé qui est utilisé pour Sissi, avec Romy Schneider, qui effectivement est un film qui a une coloration très particulière. Et là, la Dutch Film AG, qu'on appelle aussi la DEFA, hein, elle met en avant ce procédé via cette adaptation d'un conte de Wilhelm Hoff, qui avait déjà d'ailleurs été à l'origine d'un autre film qui est sorti chez Artus Film, un autre conte de ce même auteur, l'histoire du petit Mouk, on en avait parlé, ou du petit Muck, M-U-C-K. Donc là, le film que Artus Film nous sort, Cœur de pierre, la légende de la forêt noire, c'est clairement voulu comme un gros film, un film qui était envisagé comme un film à succès lors de sa sortie, avec beaucoup de salles couvertes. Enfin, c'était une grosse sortie. C'était un gros budget, c'est un très beau film, à la fois en décor naturel et en studio. C'est un film avec cette esthétique si particulière, qui est un peu dans toute cette collection là, de films merveilleux soviétiques qu'on retrouve chez Artus Film, où il y a un mélange de naturalisme et à la fois une certaine esthétique très flamboyante comme ça. Enfin, c'est assez particulier, c'est très propre à une époque. Alors, il y a quelques effets spéciaux en plus qui sont assez sympas, avec un petit lutin, parce que c'est quoi cette histoire ? C'est l'histoire de Peter Munch, qui est un charbonnier qui travaille dans la forêt noire, qui n'a pas d'argent, qui est très pauvre, dont tout le monde se moque. Et puis, il demande la main de Lisbeth, qui est très belle. Bien sûr, on lui refuse. Et il va aller demander à l'esprit de la forêt de lui accorder la richesse. Et il va avoir affaire donc à un petit génie. Hein, et il y a des certaines manifestations de l'esprit qui vont être, par exemple, un lutin, un géant, des animaux en stop motion. Ça confère un charme, une certaine poésie à l'ensemble. Sinon, bah, qu'est-ce que dit le film, hein ? Alors, la morale est simple, hein, voilà, la morale du conte est simple. L'argent ne fait pas le bonheur, alors, sauf pour les bureaucrates staliniens, mais en tout cas pas pour notre charbonnier qui va évidemment devenir riche et complètement changer de comportement et ne plus être l'homme digne qu'il était quand il était un simple travailleur. C'est un film familial, mais aussi très cruel hein, par certains aspects, mais c'est normal, c'est un peu comme tous les contes, hein, comme tout conte qui se respecte, il y a un côté cruel. Et donc, Cœur de pierre, bah, c'est une réussite hein, à mettre à l'actif de la DEFA, une de plus, qui est accompagnée dans cette édition d'une présentation de Christian Lucas qui est assez complète. Parce qu'il a quand même, faut reconnaître qu'il a pas mal d'infos, Christian Lucas, sur ses films qui sont quand même assez méconnus. Hein, où pendant longtemps, il y avait eu la seule publication qui existait, c'était un dossier sur le merveilleux dans le cinéma soviétique qui avait été publié dans un fanzine qui s'appelait Fantasticorama il y a longtemps. C'était le seul dossier qui était paru. Et donc, je ne vous dirai pas qui se cachait derrière ce fanzine, mais c'est pas moi qui avais écrit l'article. C'est vraiment quelqu'un qui était passionné par le sujet. Donc, on vous conseille vivement ce film, Le Cœur de pierre, donc de la légende de la forêt noire, donc film est-allemand signé Paul Verhoeven, qui est donc un homonyme, mais qui n'a pas le talent de son successeur, mais qui quand même nous livre là un beau conte pour toute la famille. Alors, moi, pour toute la famille, mon cher Thomas, alors là, on a un superbe coffret. Je pense que c'est le plus beau coffret qu'a jamais édité Artus Film. C'est la plus belle édition qu'ils ont sortie. Pourtant, ils en ont sorti pas mal, mais alors je pense qu'on atteint le sublime. Avec cette édition, dans une version en plus plus complète, moi je ne l'avais jamais vue dans cette version aussi longue, de Danse Macabre, signé Anthony Dawson, mais on sait tous que c'est Antonio Margheriti, un film qui, avec le temps, est devenu un classique du gothique italien, qui a même connu d'ailleurs les honneurs d'un remake, réalisé aussi par Margheriti, mais en couleur, histoire d'aller capter un autre public, qui est vraiment, mon cher Thomas, un film qui a marqué les amateurs de fantastique et de cinéma gothique, et en particulier ceux qui aiment ce cinéma venu d'Italie et dont la mode a été lancée
par Mario Bava et son masque du démon, on peut le dire.
C'est ton heure, Alan.
Va-t'en, Alan. Ils veulent ton sang. Va-t'en, Alan, pour l'amour du ciel. Va-t'en, je t'en supplie.
Une atmosphère étouffante de drame et d'amour vous tiendra en haleine jusqu'au bout, que vous le vouliez ou non, jusqu'au bout.
Tu ne peux t'enfuir.
Danse macabre. Danse macabre.
Un classique du gothique italien qui quand même convoque un grand auteur plutôt anglo-saxon dans la personne de Edgar Allan Poe. Hein, visiblement, le film s'inspire des écrits d'Edgar Allan Poe. Mais là, Edgar Allan Poe fait partie des personnages du film. Donc, on suit un journaliste qui se rend dans une auberge où le mystérieux Edgar Allan Poe raconte une histoire terrifiante, un peu glauque. Hein, et il veut l'interviewer. Et là, il lui dit que tout ce qu'il raconte, toutes ces histoires, sont inspirées d'événements réels, de choses qu'il a vécues, etc. Et au fur et à mesure de la conversation, il lui propose de passer une nuit dans un vieux manoir en dehors de Londres, parce que le film se passe à Londres, enfin le début tout du moins, en dehors de Londres, en lui disant que cette maison est tentée et que s'il passe la nuit sans dommage, eh ben, il gagne une certaine somme d'argent. Voilà. Donc le journaliste, bien sûr, est sceptique. Il fait « Mais oui, pas de problème. » Un peu cynique. Il fait « Mais moi, je passe sans problème votre nuit dans votre manoir soi-disant hanté, etc. » Donc ils se rendent au fameux manoir et ils laissent Edgar Allan Poe et un complice laissent donc ce journaliste cynique dans le manoir. Et là, bon, le film est très beau. Hein, au niveau architecture, décor, etc., c'est magnifique. En plus, la restauration est superbe. Il y a un superbe travail sur la photographie. Et donc, on voit ce journaliste évoluer dans un château plutôt en ruine, avec des toiles d'araignée partout, etc. Il y a des tombes même. C'est sympa, comme quand tu rentres dans un château, et un jardin avec des tombes, c'est vachement accueillant. Bref, et au bout d'un moment, il rencontre une jeune femme. À force de déambuler dans le château, il finit par tomber sur une jeune femme. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Il se pose même pas la question, hein, parce que c'est une belle femme, c'est Barbara Steele, évidemment. Il tombe sous le charme, et là, ça commence à partir un peu dans tous les sens. Ils se font des promesses d'amour, etc. Et puis, d'autres personnages apparaissent. Mais lui, il se pose pas trop de questions, et puis jusqu'au moment où il se rend compte qu'ils disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Donc ce journaliste cynique et sceptique finit par se rendre compte qu'en fait, tous les personnages qu'il croise dans ce château sont des fantômes qui revivent encore et encore leur mort, hein, leur mort, leur trahison. Et la grande idée d'Antonio Margheriti, c'est de mélanger le gothique qu'on peut plutôt affilié à l'Angleterre, à côté anglo-saxon, à un côté très latin, parce qu'il y a beaucoup de sexualité, de rapports amoureux dans cette histoire de fantômes qui, en fait, ce sont des histoires de tromperie, d'amants, de maîtresses, etc. Et donc, il a cette grande idée de mélanger le gothique très anglais avec quelque chose de très latin, de très sexuel, de très sensuel. Et donc, toute la force du film revient là-dedans. Il y a quelque chose de la maison hantée, et entre la maison hantée et le vaudeville, quelque part.
Écoutez Culture Prohibée. Le coffret, il est blindé de bonus. Il y a des très belles interventions de Nicolas Stenzik, d'Olivier Père, de Jean-François Roger, de Paola Paloma. Mais il y a surtout aussi un livret que j'adore. Enfin, c'est un gros livre même, où Jean-Pierre Bouixot est interrogé par Vincent Roussel. Et il y a plein, il délivre comme ça plein d'infos, parce que lui, il a pu rencontrer plein de gens qui ont participé au film, mais il a aussi connu toute cette époque, tout ce foisonnement. D'ailleurs, lui, il le dit que Margheriti, c'était un artisan plutôt qu'un auteur, mais un bon artisan. C'est-à-dire qu'il faisait bien son travail, mais il tournait ses films très vite, tout ça. Et faut savoir que quand Barbara Steele tourne ce film, ces films-là qui lui ont plu après sur la fin de carrière et tout, mais elle trouve que c'est des films mineurs. En fait, c'est presque des films qu'elle a envie de cacher. Elle se voit plus dans quelque chose de sérieux, dans un cinéma plus sérieux, parce qu'elle va tourner chez Fellini, tout ça. Là, ce film-là, il a une patte particulière, parce que, enfin, le compte, c'est une histoire très simple, mais pas tant que ça. C'est déjà une histoire de métaverse, en fait, puisque c'est des univers qui s'entrecroisent. D'ailleurs, il y a un moment, c'est utilisé par un des personnages, parce qu'il y a un docteur qui explique comme ça aux journalistes, qui explique un peu le pourquoi du comment de toute cette histoire. Mais lui, il est quand même fou amoureux de Barbara Steele, qui ne le serait pas. Et Barbara Steele, cette femme... cette actrice si particulière, qui n'est pas une grande actrice, pas une mauvaise actrice, mais qui a surtout en fait un visage très singulier et qui capte la lumière. Elle a un visage fait pour le cinéma fantastique, en particulier le fantastique gothique, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est le genre dans lequel elle a excellé, parce que la structure de son visage capte la lumière d'une certaine manière. Et puis le film est très élégant dans sa mise en scène, et puis il bouscule un peu les tabous, parce qu'en fin de compte, c'est un peu délirant cette histoire. Alors le film a un rythme. Moi j'aime beaucoup, tout passe par la mise en scène. Le film a un rythme très lent, comme ça on est nimbé par cette ambiance très particulière. Le film est assez unique en fait, hein. Il n'y a pas beaucoup de films de maison hantée comme ça, où en fait c'est un vivant parmi les morts et il va tomber amoureux d'une morte. Donc, et thématique de la nécrophilie qui revient dans L'effroyable secret du docteur Hitchcock, un chef-d'œuvre, hein, un autre des chefs-d'œuvre et là c'est Ricardo Freda, de cette époque où Ricardo Freda c'est supérieur. C'est un plus grand cinéaste, je trouve. Mais avec Barbara Steele aussi. Est-ce qu'il y a un hasard? Pas de hasard. Moi, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Hein. Et c'est vraiment pour moi, Danse Macabre, là, c'est une redécouverte. Parce que jusqu'ici, la version qu'on avait, elle faisait à peine plus d'une heure vingt. Enfin, 1h22, je crois, la version qui était sortie jusqu'ici. Là, on a quelques scènes en plus. On a énormément de bonus. Je trouve que c'est vraiment pour moi. Une petite perle du cinéma bis de cette époque. Le noir et blanc est sublime, la photo est sublime. Moi, ce film dialogue d'ailleurs avec un film d'auteur italien, un autre film qui s'appelle Fantôme d'amour de Dino Rizzi, avec Marcello Mastroianni, qui recroise un jour la femme qu'il a profondément aimée, qui est incarnée par Romy Schneider, mais vieilli, usé, et puis il comprend qu'en fait c'est un fantôme. Mais il ne peut pas s'empêcher d'aller vers elle, il est tellement amoureux d'elle. Et en même temps, elle a subi plein de choses et elle se venge dans le film. Alors c'est presque un film de genre, mais c'est quand même un film d'auteur aussi. Il y a un côté très mélancolique dans le film de Rizzi. Et pour moi, les deux films dialogue sont... c'est très intéressant. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. On n'a pas le temps dans cette émission. Mais en tout cas, Danse Macabre, là, qui est donc sorti dans un coffret sublime. Alors je pense qu'au moment où vous écouterez cette émission, le coffret doit être épuisé quasiment partout. On en a encore quelques exemplaires au film de la Gorgone. N'hésitez pas à nous contacter. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un film qui n'a jamais été présenté dans un si bel écran. Donc Danse Macabre d'Antonio Margheriti, disponible chez Artus Film. Toujours chez Artus Film, on va parler, mon cher Damien, de trois noisettes pour Cendrillon. Eh oui, tu es d'humeur guillerette, mon petit Damien.
On change totalement d'ambiance. On retourne dans l'univers des contes. Et en effet, surprise, le film parle de Cendrillon. Alors, trois noisettes pour Cendrillon, c'est un film de Vaclav Volkhet. Je ne sais pas exactement comment on prononce ça à la fin. Un film de 1973 qui est aussi lié en partie à la zone de l'URSS, il a été produit.
Vorlitschek, mon cher.
Vorlitschek. Et donc oui, c'est un film germano-tchécoslovaque fait en Allemagne de l'Est. Il reprend tout simplement l'histoire de Cendrillon. Et le grand plaisir que j'ai dans ce film, hormis le fait de découvrir des films qui ont été faits sous l'URSS et qui ont toujours cette patte un peu particulière, c'est que c'est un film qui joue beaucoup avec son environnement. Tout à l'heure, Jérôme, tu disais qu'on avait affaire à un ferme naturaliste. C'est pas exactement le cas ici, mais le fait qu'on se balade dans des forêts enneigées, je trouve que ça rajoute une magie. Peut-être que c'est lié au fait que j'ai découvert durant les périodes de fêtes, donc il y a un peu ce côté magie de Noël, et ça tombe bien parce que c'est un film qui est diffusé justement en Europe à la période de Noël dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en Espagne, en Suède. C'est quelque chose qui m'a surpris. Alors l'histoire de Cendrillon, on la connaît tous, c'est cette jeune fille qui va être élevée par sa marâtre de mère après que son père ait disparu ou soit mort. Et cette marâtre, elle déteste Cendrillon, elle lui fait faire toutes les corvées et elle va profiter de la richesse qu'a laissé son époux pour pouvoir offrir des cadeaux à sa fille. Et ici, on est dans la même dynamique, sauf qu'on n'a pas juste affaire à une femme qui dirigerait une petite maison, on a plus affaire à un petit village, quasiment le statut un peu de petit comte, sachant qu'il y a le roi qui n'est pas très loin, qui passe et qui a son fils qui est célibataire, elle va tout faire pour essayer d'envoyer sa fille au bal, pour qu'elle sorte avec le prince et qu'elle accède au trône. Sauf que dans l'histoire, on a Cendrillon, et Cendrillon, quand elle ne s'occupe pas à faire les tâches que lui donne sa belle-mère, elle se balade en forêt. Très vite, on voit qu'elle communique avec les animaux. Alors, ils n'ont pas des discussions intenses entre eux, c'est juste elle qui leur parle, qui leur donne des ordres, et les animaux qui vont obéir. Alors, pourquoi ce film s'appelle « Trois noisettes pour Cendrillon » C'est lié à quelque chose d'assez simple, c'est que dans ce film, il n'y a pas de marraine la bonne fée. Par contre, on va avoir des noisettes et un hibou ou une chouette qui vont jouer un peu ce rôle. C'est-à-dire que Cendrillon, à un moment, va faire un vœu et une des noisettes qu'elle tient, dont elle tenait la branche avec une des noisettes dessus, va tomber et la noisette va s'ouvrir et à partir de ça, va y avoir une sorte de vêtement qui va en sortir selon le vœu qu'elle a fait. Et ce qui est très cool avec ce film, c'est la façon dont Cendrillon est dépeint et pas dépeinte comme une jeune fille un peu guirée, parce que c'est quelqu'un qui fait du cheval, c'est quelqu'un qui va à la chasse et d'ailleurs son premier vœu va être lié à ça, va recevoir une tenue un peu, de chasseur sylvain, tout vert avec une arbalète et c'est lors d'une chasse avec le prince qu'elle va justement l'impressionner et à partir de ça va y avoir une romance qui va un peu se lancer. C'est un film assez particulier, j'aime beaucoup les personnages qui sont, sauf le prince que je trouve pas ouf, mais j'aime bien le jeu de Cendrillon et je trouve que y a le fait qu'il soit tourné dans un paysage de neige, ça rajoute énormément. C'est un petit effet, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça fonctionne à mes yeux.
C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce côté il y a des vrais paysages par moment, donc c'est un petit côté naturaliste. Alors, sans que ce soit du cinéma naturaliste, c'est pas du cinéma vériste, mais c'est un petit côté naturaliste et tout à coup on est dans des décors qui font très carton-pâte mais qui sont très beaux, c'est pas gênant. Enfin, moi je m'en fous, je suis très bien là-dedans. Je veux dire, moi j'ai envie d'y croire. Comme dit tout le temps notre ami Thomas, regarder un film, c'est signer un contrat. C'est un contrat tacite avec un metteur en scène, en fait. Si on a envie d'y croire, si on est pris dans le film, on s'en fout qu'il n'y ait plus d'essence dans la tronçonneuse, qu'il n'y ait plus d'essence dans la voiture, et puis que le type, il a fait 3 pas à l'aller, il en fait 10 au retour. Ça n'a pas d'importance, en fait, puisqu'on est dans le film. Et je trouve que ça marche bien, ces films marchent bien, quoi.
Il y a un seul truc qui est un peu étrange, c'est l'interaction entre les personnages. Des fois, ils parlent et la réaction en face, elle semble un tout petit peu décalée par rapport à ce qui vient d'être dit. Et de ce que j'ai vu, c'est parce que les acteurs viennent un peu partout, mais que le film en fait a été tourné dans 2 langues et qu'ils ont tourné une scène dans une langue et ensuite qu'ils l'ont retourné dans l'autre. Et je pense que c'est lié à ça, le fait que parfois, on a des réactions bizarres par rapport à ça. Après, c'est un contre-visité qui est extrêmement cool. Faut apprécier ce style de cinéma un peu... pour les enfants d'Europe de l'Est, enfin du RSS, c'est un film qui est très doux. Donc je pense que 3 noisettes pour Cendrillon de Valak Losicek, disponible chez Artus, va devenir sans doute l'un de mes films de Noël.
Tu es toujours fâché que le nom du réalisateur, c'est Vaclav Vorlicek. Mais tu n'aimes pas... T'es en train de basculer à droite, Damien. Attention, t'es en train de basculer à droite. Par contre, à ma gauche, là, il y a un loustique là, qui est venu avec des films de gauche. Évidemment, c'est de la science-fiction est-allemande. 2 films. Alors, on est toujours dans les mêmes boîtes de prod. Hein, et on est... il y a 2 films. Il y en a un qui s'appelle Elomea. On est chez Hermann Zosch, là. Puis, il est de 72. Et l'autre, on va être chez Gottfried Kolditz, qui c'est dans La poussière des étoiles. On est un peu plus tard, en 76. Bon, je vais te laisser parler des 2 films. Mais j'avoue, mon petit Thomas, que... j'ai un petit pincement au cœur pour Eolomea, qui est un film que je trouve assez intéressant.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial SF fantastique et horreur.
Dès le 2, techniquement, c'est le meilleur. Hein, c'est clairement le meilleur. Beau cinémascope, belle image, vraiment très beau film. Après, bon, c'est l'histoire. Il y a une histoire de station spatiale et de vaisseaux qui disparaissent. Et puis sur Terre, il y a une scientifique qui veut résoudre le problème. Pourquoi ces vaisseaux disparaissent ? Donc ils envoient une expédition là-bas. Et moi, je trouve un poil confus au niveau du scénario quand même. Hein. Il y a différents personnages. On retrouve des personnages qui sont dans une autre station spatiale. À un moment, je me suis perdu, hein, je t'avoue. Hein. Mais moi, je trouve que le film est d'une très belle beauté formelle. Après, c'est du cinéma quand même à petit budget. Donc, il y a des moments, il y en a qui vont rire, évidemment, forcément. Il y a des robots qui sont étranges, qui transportent des théières, mais sans les renverser, mais quand on sans renverser ce qu'il y a dedans, mais quand alors qu'ils les tremblent dans tous les coins. Après, je te dis, c'est le scénario qui m'a rendu un peu confus. Bon, on pourra dire que c'est un film qui devance quelque part les théories de Stephen Hawking, car en fait, il s'agit d'aller voir une autre planète ou qui serait habitable, une autre planète que la Terre. Voilà, c'est un peu l'idée générale du film. Hein.
L'idée, c'est que on essaime sur tous les astéroïdes, tout ce qu'on peut en fait pour. Pour la survie de l'humanité. Puis c'est un film assez optimiste en fait. L'homme nouveau. Bon, d'ailleurs, c'est un film aussi assez féminin. C'est une femme qui est ravissante d'ailleurs, cette actrice qui s'appelle. J'ai noté son nom parce que bon, pas évident à retenir. Cox Abema. C'est assez moderne en fait comme film. Et tu effectivement. Alors c'est quand même une grosse production à l'échelle de cette boîte. Hein. C'est une production internationale. Hein.
À l'échelle de cette boîte.
Voilà, ouais. C'est quand même une grosse production.
Il faut quand même remettre dans le contexte.
Non, mais comparé à l'autre qui a un plus petit budget, si on regarde les budgets. Voilà. Mais film très intéressant, parce que justement, comme tu le dis, il brasse des thématiques qui sont toujours d'actualité aujourd'hui.
Oui, et puis il y a quand même une certaine recherche esthétique en dehors du cinémascope. Il y a une très belle photo, il y a un grain d'image vraiment, que je trouve vraiment très beau. Il y a aussi quelques passages un peu psychés, on se demande ce que ça fout là.
Complètement.
Et il y a aussi ce mélange. Alors, en plus de cette superbe photographie, c'est des décors. Quoi. On voit que c'est des décors. Bon, nous, on a grandi avec ça. Quand on voit un film de science-fiction avec des maquettes, des décors, etc., nous, on trouve ça poétique, ça nous parle, etc. etc. Peut-être à un public plus jeune, ça les fera rire, comme ce robot dont je parle qui transporte des théières sans les renverser alors qu'il les trimballe dans tous les sens.
Ce robot, c'est un peu aussi une parodie des règles d'Asimov envers les robots, tout ça. Enfin, il y a un vrai. Ils connaissent la SF, les gens qui ont fait le film. Hein. Et on sent qu'il y a une école de la science-fiction derrière. C'est pas n'importe quoi. Alors, c'est vrai qu'il est bête, ce robot. Ça, je suis d'accord avec toi.
C'est pas qu'il est bête, c'est qu'il est maladroit. Mais bon.
Oui,
il y a des vrais dialogues très sérieux. C'est pas. On n'est pas dans la petite série Z. De SF avec des mecs qui écrivent des dialogues à l'emporte-pièce. Il y a vraiment une vraie réflexion sur l'avenir de l'humanité, sur l'exploration de l'espace. Non, c'est vraiment un des... Enfin, des deux, sur le plan technique, qualitatif et puis écriture de scénario, c'est le plus ambitieux, c'est sûr. Après, moi, j'ai une petite préférence pour Dans la poussière des étoiles. Parce que, bon, le budget est beaucoup plus petit. Ça me fait beaucoup penser à cette série qu'on regardait quand on était plus jeune, qui est Cosmos 1999. Ça me fait beaucoup penser à ça, au niveau des costumes, au niveau de l'image. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Et là, on est vraiment dans un cinéma de SF fauché, avec un petit côté très années 70, disco, funk, au niveau des décors, des costumes. C'est une expédition spatiale qui est contrainte d'atterrir sur une planète suite à un appel de détresse reçu comme ça, inopinément, et qui sont accueillis, très bien accueillis par les habitants de la planète. Ils vont à des soirées, genre orgiaques, mais très soft hein, quand même. Hein. Des soirées orgiaques sont très bien accueillies, mais seulement tout ça, ça cache quelque chose. Il y a quand même un membre de l'équipage qui se méfie, qui n'est pas dupe de cet accueil quand même très amical. Et en fait, c'est un film sur le colonialisme. Voilà, c'est ni plus ni moins un film sur le colonialisme. Ce sont des gens qui ont colonisé une planète et qui ont mis leurs habitants en esclavage. Alors, moi, je trouve ça très sympa. C'est pas du scope, c'est du B1-66. On voit vraiment que c'est un plus petit budget. Et surtout, au niveau des effets spéciaux, c'est là où c'est beaucoup plus rigolo. Alors, les engins spatiaux, ce sont en fait des tracteurs. Ils ont ajouté des tuyaux pour faire des canons. Moi, ça me fait beaucoup rire. Il y a plein de choses comme ça, en carton-pâte, des tours qui sont en fait des constructions en carton-pâte. Mais moi, j'aime bien ce film, je le trouve vraiment très sympa. Il y a des passages où si on est dans une sorte de jardin d'Éden avec des jeunes femmes, bien sûr, dénudées, qui dansent avec des voiles, des voilettes, etc. Moi, c'est celui que je préfère dans les deux.
Moi, je retiens que Thomas a enchaîné le colonialisme et j'aime beaucoup ça. Derrière, je sais pas. Je sais que Thomas souhaitait un recentrage de la ligne éditoriale, mais à ce point-là. on rappelle, hein, ces deux films, et Noméa et Dans la poussière des étoiles, sont disponibles chez Artus Film.
I spit on your grave.
For what they did to me.
Vous écoutez Culture Prune.
I spit on your grave.
For what I'll do to them.
I spit on your grave.
And there isn't a jury in America that will convict me.
I spit on your grave. Rated R.
On va quitter Artus Film, mon cher Damien, pour aller chez ESC, pour parler d'un film. Alors, on a déjà parlé de ce film, on avait fait une émission sur Rape and Revenge il y a de cela quelques années. Une super édition avec le film en HDR, un commentaire audio du réal, du critique Joe Bob Briggs, des interventions de Clara Sebastiao, des entretiens avec Merzarki, encore plein de choses, des films Super 8 du film de Merzarki, puis surtout un grand documentaire, avec I Spit on Your Grave du fils de Merzarki et des films Super 8. J'ai découvert d'ailleurs que Camille Keaton avait vécu avec Merzarki et qu'ils vivaient tous. C'est pas sympa, Merzarki, d'avoir fait tourner ça à Camille Keaton quand même. Vous voyez, parce qu'on parle de quoi ? On parle de I Spit on Your Grave. Le film, l'un des films matrices en tout cas de ce sous-genre du cinéma, le Rape and Revenge, et qui donc, Damien, vient de sortir dans cette incroyable édition chez ESC Vidéo.
Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur Spit on Your Grave de Merzarki, avec en plus ce coffret qui sort, ce petit coffret qui sort, tout est absolument complet dedans. Je résumais le film rapidement. Jennifer est une écrivaine new-yorkaise qui a loué un pavillon dans une forêt pour y chercher l'inspiration, et elle va être sauvagement battue et violée par 4 hommes qui la laissent pour morte. Sauf qu'elle ne l'est pas, et le temps de se reconstituer, elle les supprimera patiemment un par un. Alors, comme Jérôme l'a dit, c'est dans le style du Rape and Revenge, qui repose toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une femme qui va être violée, elle va survivre, et ensuite ses agresseurs vont être tués un par un, si possible, très violemment, pour justement avoir cet effet un peu cathartique. Ce film, il fait partie des tout premiers qui sont sortis dans ce genre. Alors, c'est pas le tout premier, mais il fait partie des plus grands qui vont être connus et qui vont se répandre. Il y a deux choses que j'aime bien dans le film, c'est notamment ce pavillon. En fait, j'aime bien la façon dont il est montré avec ces petites maisons, ce petit arbre, l'herbe, le fait que pour y accéder ou en partir, on peut y aller en bateau. Ça crée une ambiance qui est vraiment une ambiance de vacances et qui rend l'horreur de ce qui se passe dedans encore plus insupportable. J'aime bien aussi bizarrement la lumière. J'aurais pas dire pourquoi, mais je trouve qu'elle a un effet qui fonctionne énormément, et je trouve que c'est un film qui fonctionne encore aujourd'hui, notamment parce qu'on a un retour du Rape and Revenge qui revient. qui revient à la mode, qui est malheureusement pas vraiment surprenant vu la société dans laquelle on vit. Par exemple, en 2024, on a eu Blink Twice de Zoé Kravitz, ou bien on peut repenser à Revenge de Coralie Farja, qui a fonctionné pareil l'année dernière avec la sortie de The Substance, même si Revenge date de 2017. Donc c'est un film pour les personnes qui ne l'auront pas vu, qu'il faut absolument voir, justement, pour comprendre d'où part un peu toute cette vague et quel était au final le pilier fondateur de cette expérience.
Alors, I Spit on Your Grave, donc c'est chez ESC et c'est un coffret énorme. Juste pour dire, Merzarki a fait ce film après lui-même avoir sauvé une jeune femme qui venait d'être violée. Il était en compagnie de sa propre petite fille. Ils ont été traumatisés et il a essayé de retrouver. Parce que le film, quand même, même si le film a un paquet d'années derrière lui, ça reste assez traumatisant quand même. C'est pas un film facile à regarder. Je préfère le dire pour les auditrices et auditeurs. C'est quand même hard comme film. C'est quand même un film pas simple parce que le côté naturaliste du film en plus rajoute un peu à l'horreur du truc, quoi. Alors, autre coffret, super beau coffret aussi. D'un film qui est un peu un film de moi, de mon enfant. J'avais vu à la télé quand j'étais môme et tout. D'un film de Kosei Saito qui s'appelle Les Guerriers de l'Apocalypse. Alors, c'est un film qui sort dans une super copie HDR avec Blu-ray, mémorabilia. Enfin, c'est super coffret là qu'ils nous font Carlotta Film régulièrement sur des films. C'est pas un ultra collector, mais c'est la version intermédiaire. Et il est magnifique. Hein, et surtout, il nous permet de voir Thomas. Enfin, ce film qu'on connaissait tous dans une version qui faisait 30 minutes de moins avec de la VF, hein, là, dans une version, dans sa vraie version japonaise, qui fait 2h20, et qui est donc plus longue de 30 minutes, hein, un peu plus de 30 minutes, et qui est un film quand même, mon cher Thomas, qui reste Les Guerriers de l'Apocalypse, donc de Kosei Sato, un film qui reste assez dingue.
Ah, c'est sûr qu'une fois qu'on a vu, une première fois qu'on a vu ce film, on ne l'oublie pas, hein. Donc, Les Guerriers de l'Apocalypse, ça raconte quoi ? C'est des militaires de l'armée d'autodéfense. Alors, l'armée d'autodéfense au Japon, c'est une armée qui ne peut pas attaquer, qui n'est pas offensive, qui est juste là pour défendre le pays et qui n'a pas le droit d'attaquer d'autres pays. Hein. Tout ça, c'est très bien expliqué dans les bonus par Fabien Moreau. Hein. Il explique très bien tout ça, la jeunesse du film, etc. Donc, il y a l'armée de terre, un hélicoptère et la marine par un bateau qui se retrouve au XVIe siècle, hein, si je ne me trompe pas, qui se retrouve au XVIe siècle, au temps des samouraïs, etc. Par une faille temporelle, très belle séquence, un peu psyché, un peu onirique. Donc ils sont sur une plage. Alors, en plus, à un moment, comme le fait remarquer très bien Fabien Moreau dans les bonus, à un moment, ils sont sur une plage et au fond, on voit une centrale nucléaire. Et on pense tout de suite à la centrale nucléaire de Fukushima, hein, et qui permet de localiser le film un peu dans le temps par rapport à ce qui se passe ensuite, vu qu'elle disparaît, la centrale nucléaire. Et donc, ils sont donc sur une plage, et donc, à la suite de cette faille spatio-temporelle, ils se retrouvent face à des samouraïs. Alors, sur le coup, ils se disent que c'est une mise en scène, que c'est quelque chose comme ça, mais quand il commence à y avoir des morts, ils se disent « Ah non, finalement, c'est peut-être pas une mise en scène. » Et bon, là, ça commence à défourailler sec. Et puis, en fait, c'est deux clans de samouraïs qui s'affrontent, et il y en a un qui se disent « Vous allez devenir nos copains, et puis on va prendre le pouvoir, nous allons pouvoir vaincre nos ennemis, etc. » Bon, y a un peu plus que ça, une histoire de mutinerie. C'est un film qui est quand même assez violent. C'est assez complexe au niveau du scénario, c'est assez violent. Y a des décapitations, évidemment. Et il y a une énorme... vers la fin du film, il y a une énorme scène de bataille, mais dantesque, hein, avec des milliers de figurants. Bon, c'est pas du Bondarchuk non plus, mais on en est pas loin quand même. Hein.
C'est un gros film, c'était un blockbuster, c'était voulu comme un énorme film, c'est ce que c'est d'ailleurs.
Oui, c'est un blockbuster, hein. Donc il y a une énorme scène de bataille qui montre que quand même, on a beau avoir une jeep, un tank, un hélicoptère, quand même, quand on a des milliers de samouraïs contre soi, on fait quand même pas le poids, hein. On peut être vite débordé. Donc c'est un film très violent, et c'est un film qui est aussi Bon, techniquement, c'est superbe, hein. Mais c'est un film qui est aussi très bizarre parce qu'il y a une utilisation de la musique qui moi, me perturbe un petit peu. Notamment, il y a des scènes avec des chansons pop, comme dans les films américains de l'époque. Et à un moment, il y a une séquence assez troublante. On voit les deux personnages qui ont fait copain-copain, hein, le samouraï et puis le sous-lieutenant de l'armée d'autodéfense, qui ont fait copain-copain, puis il y a toute une séquence assez elliptique avec une chanson dessus, ça fait très gay friendly, je trouve, hein. C'est assez perturbant. Et à côté de ça, il y a des scènes absolument sanglantes, absolument violentes. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Les Guerriers de l'Apocalypse, je vous le recommande vivement.
C'est très beau, c'est disponible chez Carlotta Film. Je rajouterais que la fin avec l'irruption d'un personnage féminin est assez poignante en vérité, est assez étonnante. Voilà, donc c'est vraiment du un film à redécouvrir. Écoutez Culture Prohibée, spécial SF fantastique et horreur. Moi, je vais quitter Carlotta Film pour aller chez Rimini. Rimini Édition qui nous sort une très belle édition, la plus belle à ce jour, hein, de 1984. Un film sorti en 1984. Adaptation, évidemment, du fameux livre de George Orwell, avec John Hurt, Richard Burton et une actrice qui joue son premier rôle pour le cinéma, Susanna Hamilton, et pas un rôle facile. Alors... Je crois que l'histoire, tout le monde la connaît, hein. C'est Big Brother, chef spirituel d'Océania, l'un des trois États dont la capitale est Londres, et qui manipule et contrôle les moindres détails de la vie de ses sujets. Et puis il y a Winston Smith, qui travaille dans l'un des départements. Puis un jour, il tombe amoureux de Julia. C'est un crime. Il n'a pas le droit de tomber amoureux, en fait. Il tombe amoureux de Julia. Et tous les deux vont tenter de s'échapper, mais dans ce monde cauchemardesque divisé en trois, tout être qui se révolte est brisé. Alors... Ce film, c'est assez marrant parce qu'il est célèbre, en fait. Il est plus... Il n'y a pas tant de monde que ça qui l'a vu, mais tout le monde connaît la chanson du film, l'une des chansons principales de sa BO, qui est une chanson de Rhythmix, qui a été imposée par Virgin, en fait, qui coproduisait le film, et dont le réalisateur... Il y a des bonus très complets, hein, il y a plein de choses très, très intéressantes, on y reviendra après, mais qui a été imposée par la production à Michael Radford, qui, lui, n'en voulait pas dans la BO de cette adaptation de 1984. Alors, c'est sans doute l'adaptation aussi de 1984 la plus célèbre. Elle a la particularité, je le disais, d'être sortie en salle en 1984. Et George Orwell, il décrit un futur dystopique. Alors, rappelle quand même que George Orwell... on est à ce moment-là, lorsqu'il écrit le livre en 1948, il bouge les dates en fait, et George Orwell, qu'on a longtemps être accusé d'être un traître, mais c'est pas vrai, à la cause communiste, parce qu'il était très très à gauche et très proche des communistes, en fait, de l'idéologie communiste, mais en fait Orwell, du socialisme et de l'utopie, enfin voilà, mais ce qu'il dénonce avec acuité, en fait, c'est ce dont peu de monde parlait à l'époque, c'est-à-dire que on peut être dans la pire des dictatures quand on veut le meilleur des mondes. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que le livre, c'est un livre sur la bureaucratie, comme le développement de la bureaucratie, le stalinisme, le danger du stalinisme, qui met en parallèle avec le nazisme. Et puis il y a chez Orwell ce côté, je crois qu'il meurt peu de temps après, enfin à peu près à la même époque, il meurt jeune, hein, Orwell, et il va aussi signer un autre livre qui a connu un succès fou au moment de la crise du Covid, qui a été le livre le plus vendu, c'est La ferme des animaux aussi. Et donc il a pas écrit énormément de bouquins parce qu'il est mort jeune, mais alors, ces bouquins ont marqué, pour différentes raisons, ont marqué l'histoire. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est qu'il a su évoquer les maux qui gangrenaient la société, et même les plus beaux drapeaux, hein, le drapeau rouge qu'on a sali dans la boue et que Staline a sali dans la boue. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît dans le film. Le film est très dur parce qu'on voit que dans cette certaine idée de l'utopie, du bonheur, qui en fait est une dictature terrible, on voit comment la paranoïa se répand, et puis aussi comment on est privé de notre propre identité, parce que là, on empêche quand même aux gens de s'aimer. Enfin, c'est quelque chose, c'est quand même assez dingue. Alors, le film, sincèrement, je sais que le réalisateur voulait faire du noir et blanc, la production n'a pas voulu, alors du coup, il a inventé un procédé avec son directeur de la photo. Alors, c'est Roger Deakins à la photo, c'est pas n'importe qui. Hein. Et ils ont inventé un procédé qui permet, en quelque sorte, alors techniquement, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça s'appelle les bleach bypass, et ça permet de délaver la pellicule comme ça, ce qui fait que ça donne une sensation de film froid, de film glacial. C'est vraiment ce qui ressort du film. De toute façon, le film est pas simple. Hein. C'est presque du Robert Bresson. Hein. C'est un film qui est très dur. Et pourtant, par exemple, il y a beaucoup de nudité, mais il n'y a pas de chaleur. C'est vraiment une... ce qui est décrit, c'est un monde très dur. C'est pas agréable. Et d'ailleurs, en fait, ce que va garder le public... En fait, le film va bien marcher, mais ce que le public va retenir comme adaptation de 1984, c'est un film qui sort à la même époque, c'est le film de Terry Gilliam, Brasil. Parce qu'il y a un côté fantasy chez Brasil, qu'il n'y a pas fantasy, le mot français, hein, pas la fantasy, hein, voilà, qu'il n'y a pas du tout dans celui-là. Celui-là, il est à l'image du romance. C'est certainement une des adaptations les plus réussies de l'ouvrage d'Orwell et les plus fidèles. Alors, donc je vous le recommande, mais bon, après, vous n'allez pas faire la nouba, hein, ça c'est sûr, je vous le dis tout de suite. Le film est proposé dans un nouveau Master 4K. Et puis, moi, il y a plein de super bonus. Bon, il y a une interview inédite de Radford, mais il y a surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est les interventions de Laurent Aquenin, Alexandre Jousse, Caroline Vier, qui sont allées sur le tournage à l'époque. Caroline Vier, c'est son premier reportage pour l'écran fantastique à l'époque. Et elle va sur le tournage, elle découvre ça, elle n'a jamais été sur un tournage. Donc, et il raconte tout ça, il raconte ça très, très bien. Et Laurent Aquenin, il explique très bien. Il décortique bien le film. Puis après, il y a un spécialiste de Big Brother, hein, donc François Brune, qui là aussi, c'est pareil, décortique très bien. Les bonus sont pas... Il n'y a pas énormément de bonus, mais ils sont tous très pertinents. Donc voilà, donc on vous conseille vivement ce 1984, d'après George Orwell, évidemment, de Michael Radford, qui est disponible dans une très belle édition chez Rimini. On va terminer cette émission avec un film plus récent, un film de 2022 qui est sorti chez Blackout, un film de Matt Vesely qui s'appelle Monolith, un film, un tout petit film, un tout petit budget, hein, un film australien avec une certaine Lily Sullivan, révélation, tout le film pour moi est une révélation, de toute façon on va en parler un peu après, j'ai été bluffé par ce film, qui raconte une histoire assez simple en fait, c'est une journaliste qui est en disgrâce, visiblement elle a dû travailler pour des grands journaux. Elle a sorti une histoire qui était une histoire juste, en fait. Enfin, elle s'est dit que c'est juste et ce qu'elle a fait, c'était juste. Sauf qu'en fait, elle a été démentie, voilà. Et ça a un peu plombé sa carrière et elle se retrouve à faire un podcast un peu conspirationniste, tout ça. Et il faut qu'elle trouve des sujets pour appâter le chaland. Et alors, le film se passe entièrement chez elle, dans une grande maison avec des grandes baies vitrées. Une maison qu'on rêve tous d'avoir, hein, parce que c'est une maison à plusieurs millions de dollars, si vous voulez mon avis. Voilà, une maison assez incroyable. Et elle est comme ça, dans cette maison. et elle va avoir un nouveau sujet, c'est le sujet des briques. Alors au début, on se demande qu'est-ce qu'il raconte, c'est quoi cette histoire de briques. Est-ce qu'il y a, comme le film, il n'y a pas de VF, c'est une VOST, on se dit, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris là ? Et puis, où il y a une erreur de traduction, pourquoi il me parle de briques ? Ben non, en fait, c'est une sorte de brique noire, donc un petit monolithe, et qui, quand il rentre, que des gens reçoivent comme ça, un jour, on trouve un monolithe devant sa porte, un mini monolithe qui tient dans la main, hein, c'est pas plus grand qu'une petite brique, effectivement. Et à partir de là, les vies des gens s'en trouvent bouleversées. Je vous dévoile rien. C'est un postulat très quatrième dimension pour un film, mon cher Damien, qui est un peu une excellente surprise, qui est une vraie démonstration de mise en scène. Bon, je pense que le réalisateur aussi entretient quelque chose d'angoissant, c'est complexe, c'est assez passionnant. Et au final, c'est assez effrayant, en fin de compte, c'est assez flippant. Le film a une ambiance vraiment flippante parce que tout passe par la mise en scène. Et au final, je pense qu'on peut dire que Matt Vesely, parce qu'un film se crée en plusieurs étapes, je pense qu'il n'a pas super bien vécu son confinement. Je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est aussi un film sur le confinement.
Monolith, c'est un film qui a une production un tout petit peu particulière. C'est un film australien très récent. Et moi, j'aime beaucoup son introduction, où justement, on entend juste des voix, on a notre écran qui est sombre. Au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas notre écran qui est sombre, c'est qu'on est devant un micro et on se rend compte que les voix qu'on entend, en fait, c'est des personnes qui parlent, qui envoient des audios. Le truc qui est intéressant avec le film, c'est qu'il se passe dans une unité de lieu, c'est-à-dire qu'on va rester dans cette maison, on va rester avec ce personnage, et le tout début de l'histoire, ça va être énormément d'audio qu'on va entendre. On va entendre les personnes qui envoient des témoignages par rapport au fait qu'ils ont reçu la brique noire. Elle est un peu suspicieuse parce que la raison pour laquelle elle est en disgrâce, c'est qu'elle a publié une information, mais elle n'a pas vérifié ses sources, et c'est ça qui joue contre elle. Donc derrière, quand elle essaye de mettre en avant ce phénomène, il y a ce côté un peu particulier de se dire peut-être qu'elle ment de nouveau, peut-être qu'elle fait de nouveau une erreur, mais l'intrigue que lance le film nous attrape assez vite et on reste accroché à lui. Plus le film va avancer, plus la caméra va un peu bouger. Vous attendez pas à des plans exceptionnels. On sent parfois qu'ils essayent de combler un peu cet immobilisme, mais qui est intéressant parce que cet immobilisme renvoie au fait que l'enquête en soi ne bouge pas trop. Et au moment où on va commencer à recevoir des éléments en plus, on va commencer à avoir des images un peu floutées de lieux qui se déplacent où ils expliquent leurs sensations par rapport à cette brique noire. Je me suis un peu posé la question de ce que pouvait symboliser cette brique noire, parce que à force qu'il répète brique noire, ça me faisait penser un peu à Black Mirror, justement, la série, parce qu'on retrouve ce même côté SF, et le Black Mirror de la série renvoie au téléphone, donc on retrouve un peu ce côté odieux et ce côté un peu vie mis de côté. Et je trouve qu'il y a aussi un petit côté Pontypool, un film dont on a déjà parlé, où il se passe quelque chose qui se répand par l'audio, ça se passe dans une radio, et là on a un peu la même chose qui est qu'à un moment de l'histoire on va parler d'hystérie un peu collective, et c'est quelque chose qui se répand notamment à travers ce que les gens entendent, mais à l'époque moderne on peut imaginer quelque chose qui se répand par le numérique. C'est un film qui a très peu de budget, mais qui arrive à développer une ambiance qui est vraiment particulière, assez inquiétante. Alors, il y a un mystère, par contre, qui m'a un peu surpris, c'est que quand le film est sorti en Australie, il est rated M, ça veut dire moins de 12 ans pour nous en France. En France, il n'a pas eu de... Il était tout public. Par contre, aux États-Unis, il est sorti rated R. Ça veut dire que pour le voir, il faut au minimum être accompagné par quelqu'un qui a plus de 17 ans. Je ne sais pas pourquoi les Américains ont fait ça, mais je ne comprends pas la plupart du temps ce que les Américains font. Pour revenir sur le film, oui, c'est une excellente découverte dans cette angoisse un peu nouvelle, avec une fin où j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de trucs de montrer, mais j'apprécie ce qu'ils font.
La fin est un peu plus discutable, ce n'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans le film. Mais c'est quand même un tout petit film et tout passe par la mise en scène. Il y a un talent dingue parce qu'en fait, je veux dire, s'il y a un mauvais metteur en scène, on va vite s'ennuyer. Enfin, parce qu'il ne se passe rien, en fait, sinon. Si ce n'est qu'elle reçoit des messages et que ces messages l'inquiètent.
Mais c'est le risque au début du film. Vu qu'on n'a que des audios et des plans fixes sur elle, on pourrait se dire, on a juste à fermer les yeux, à l'écouter. On ne comprend pas l'idée du film au début.
Et ouais, c'est ça qui est intriguant. C'est ça qui fait pour moi que c'est un bon film. C'est une très bonne série B, c'est une belle découverte, ça s'appelle Monolith, c'est disponible chez Blackout et on vous le conseille vivement.
sad, and I know why. With no chance to live before you die, you get pretty sick if you have to keep it inside. I wanna build a house where an ad don't scream. I wanna live in peace, quietly. I wanna have a place of love and safety. People ought to live how and where they want. People ought to have respect in front. People ought to get along pretty okay. So get off my dick. I'm building it brick by brick. Brick by brick. I'm building a house where I can think and have some balance and dignity. I'm building a house where no one can hurt me.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey et dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
So get off my dick. 'Cause I'm building this brick by brick, brick by brick, brick by brick. Now I'm looking at just a